Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir de nouveau à l'émission Catherine Turgy, l'une des grandes randonneuses de longue durée du Québec et du Canada. Catherine a récemment complété les parcours mythiques de la Triple Crown, ou Trois Couronnes, soit la Pacific Coast Trail, l'Appalachian Trail et la Continental Divide Trail aux États-Unis. Au total, plus de 11 000 km sur des sentiers, souvent aux paysages époustouflants, parfois au milieu dangers, et toujours propice à vivre pleinement le moment présent. Au cours de notre entretien, Catherine nous parle avec émotion et lucidité des moments forts sur chacun de ses sentiers, des leçons de vie qu'elle en a tirées, des clés d'une vie bien remplie qu'elle partage lors de ses conférences, de son livre où elle racontera le quotidien de cette grande aventure, et finalement, de sa vie de nomade du 21e siècle qui l'inspire tout au long de son cheminement hors du commun. En deuxième partie d'épisode, c'est la chronique de Michel Cousinat-Baudet, Le corps en marche. Michel nous indique cette semaine comment la marche pratiquée régulièrement peut renforcer notre système immunitaire et nous rendre plus résistants face aux infections saisonnières. Et entre les deux, la très belle pièce musicale « El Condor Pasa », reprise par le merveilleux flûtiste Georges Zamphir et tirée du film « Wild », réalisé par Jean-Marc Vallée et qui raconte l'odyssée de la Pacific Coast Trail. Bonne écoute et bonne randonnée! Alors, bonjour Catherine et bienvenue de nouveau à Marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour après tant d'eau qui a coulé dans nos rivières et sous les ponts.
Oh, que c'est bien dit, que c'est bien dit. Vous avez l'air en forme absolument magnifique.
Merci beaucoup.
Et surtout, félicitations pour votre remarquable exploit, soit d'avoir complété ce qu'on appelle la Triple Crown ou les trois couronnes de grande randonnée. Vous devez vous sentir très fier de cette mission accomplie.
Oui, merci Denis. En fait, oui, fier, mais surprise parce que je réalise pas encore ce que je viens de marcher. Donc, 11 500 km au total sur ces trois grandes randonnées-là, c'est difficile à digérer. J'atterris encore, mais oui, assurément, super fier de moi.
Alors, nous allons en parler tout au long de cette entrevue. Mais d'abord, lors de votre première visite, un petit rappel, c'était après avoir complété la Pacific Crest Trail. On peut d'ailleurs vous écouter en parler sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM où un moteur de recherche permet de vous retrouver rapidement. Mais pour nous remettre dans l'ambiance, décrivez-nous un peu ce premier grand défi et ce qui vous a amené à compléter la Pacific Crest Trail.
Oui, je m'étais mise à randonner des distances de plus en plus longues parce qu'à chaque fois, au début, tout est né de la course à pied, puis tranquillement vers la course en sentier, puis j'ai eu ce besoin-là de ralentir, donc de partir à la randonnée d'une journée. La journée s'est transformée en 3 jours, 4 jours, 7 jours. J'en avais jamais assez. J'étais toujours en larmes de revenir vers l'auto, pas parce que je souffrais, parce que j'avais envie de rester plus longtemps en nature. Donc, le projet de la Pacific Crest Trail est né. J'avais déjà marché tout le sentier national au Québec, donc j'avais exploré une bonne partie de notre province. Puis la suite était une plus longue aventure. Même notre sentier national, qui faisait 1535 km, n'était pas assez pour assouvir ma soif d'aventure. Donc, la Pacific Crest Trail, c'était une belle marche de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière canadienne par les montagnes de la crête du Pacifique. Fait que c'était pas plat du tout, mais c'est une aventure qui a assurément changé ma vie.
Oui. Vous pourriez décrire un tout petit peu la Pacific Crest Trail? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
En fait, c'est un sentier qui s'échelonne sur 4270 kilomètres. Oui, c'est pas envisageable. Il faut vraiment le prendre un morceau à la fois, un pas à la fois, même une section à la fois. Donc, ça traverse la Californie au complet du nord au sud, ensuite l'Oregon, puis ensuite Washington. Fait que j'ai passé vraiment par toutes les saisons en 5 mois de marche, là, en commençant au printemps. J'ai affronté la neige dans les Sierra Nevada, j'ai affronté la chaleur du désert quand j'ai commencé dans le désert de la Californie. Même en Oregon, on a eu des canicules, puis en plus, il fallait se battre pour arriver avant la neige à la frontière du Canada. Fait que sur 5 mois, on voit passer toutes les saisons, toutes les fleurs sauvages. J'ai rencontré des gens incroyables pendant cette randonnée-là. Ça a été bouleversant aussi, ça a changé mes perceptions. Puis ça m'a donné envie d'en faire encore plus à mon retour.
Et j'imagine qu'il y a eu des moments forts pendant cette première grande randonnée.
Oui, des très grands hauts, des très grands bas. Quand on est comme ça, à la merci des éléments, on vit des moments très hauts en émotion parce qu'on les mérite physiquement, c'est très exigeant. Oui. Mmh. Puis évidemment, on a des moments un peu plus bas, mais c'est normal. Puis on apprend vraiment à l'accepter. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard, là, des leçons que j'ai apprises à travers ces grandes marches-là. Mais ça a été très révélateur pour moi de partir comme ça puis de me détacher, de prendre ce grand recul-là, en fait, sur ma vie. Puis de sortir de cette parenthèse-là, me sortir la tête de mon quotidien.
Et au point de vue physique, c'est un test d'endurance exceptionnel, je n'en doute pas. Mais vous vous êtes préparé juste avant.
Oui. En fait, avant de commencer la Pacific Crest Trail, j'avais fait beaucoup de courses en sentier. Donc, j'avais déjà ce bagage-là au Québec.
Ça, oui.
Puis le sentier national qui m'a donné l'endurance et l'autonomie, si on veut, nécessaire, puis l'espèce de bagage d'apprentissage que j'ai apporté avec moi dans mon sac à dos. Fait que ça m'a aidé, mais le physique se fait au fil du temps. C'est tellement long. Quand même qu'on aurait le meilleur entraînement au jour 1, qu'on arrive là, on est prêt à courir un marathon, bien, on marche jour après jour après jour après jour. Donc, au bout d'un mois, le corps va suivre.
Alors, vous vous êtes pratiqué, si j'ai bien compris, sur ce qu'on appelle les 115 sommets des États-Unis.
Oui, en fait, plus récemment, j'avais déjà commencé ces 115 sommets-là avant la Pacific Crest Trail, parce que c'est là où est née ma passion de la randonnée. C'est dans les sommets de plus de 4000 pieds du nord-est des États-Unis. Puis après la Pacific Crest Trail, je me préparais aussi à faire d'autres longues, entre autres, pour ne pas les nommer, l'Appalachian Trail et la Continental Divide Trail faisaient partie de mes nouveaux rêves.
Qui sont deux autres des trois couronnes.
Les deux autres couronnes. Oui. Fait que pour aller faire ces deux autres couronnes-là, j'ai poursuivi mon projet. Les 115 sommets, c'est un prétexte d'entraînement pour partir sur ces plus longues randonnées-là. Et j'ai entrecoupé aussi ces deux grandes couronnes-là par des plus petits périples. Bien, petit, tout est relatif, là. J'ai fait l'Arizona Trail en 2024, puis l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, donc la portion sud d'un sentier qu'on appelle la Te Araroa. Je vais rouler mes airs avec l'accent néo-zélandais.
Oui. Ça nous amène là-bas. Décrivez-nous ce que vous avez vu. Les paysages doivent être extraordinaires là-bas.
Hein? C'est dépaysant.
Oui. Qu'est-ce qu'on voit?
En fait, même moi, ce qui m'a dépaysé le plus, c'est étonnamment la nourriture. Je ne m'attendais pas, quand on rentre dans une épicerie, se ravitailler pour le sentier.
Oui? Mm-hmm.
Nos repères sont perdus. Là, j'ai plus la même nourriture déshydratée que je suis habituée. Mais oui, la nature, elle est complètement différente. Là-bas, c'est des paysages auxquels on n'est pas habitué, des météos auxquels c'est très humide aussi. Fait qu'il y avait des petites ressemblances avec la côte est de l'Amérique. Mais la flore et la faune et même le chant des oiseaux étaient dépaysants parce qu'on n'est pas habitué à ces oiseaux-là.
Ah, mais oui,
Tout ça. Puis il n'y a que des oiseaux. Naturellement, en Nouvelle-Zélande, c'est une terre où il n'y a que, à l'origine, que des oiseaux. Bon, l'humain a apporté toutes sortes de bestioles poilues, mais à la base, c'est une terre d'oiseaux. Donc oui. Ça, c'était fabuleux. Puis le côté mystique de ces forêts-là, avec la brume et tout, c'était
magique. C'est un petit paradis, là, pour la randonnée.
Un paradis de la randonnée, mais c'est très sauvage. Donc, c'est pas des beaux sentiers très bien balisés auxquels les standards, on est habitués en Amérique du Nord ou même en Europe. C'est pas un GR, là. Puis c'est pas non plus l'Appalachian Trail. C'est un sentier que je pourrais qualifier de très rustique et nouveau.
Ah oui? OK.
Oui.
Et ce qui est très remarquable aussi, vous avez quand même travaillé très fort au niveau des conférences, au niveau d'autres activités reliées à tout ça, pour quand même défrayer, financer vos expéditions, vos marches, vos randonnées.
Oui, en fait, je me suis mis, par la demande d'un ami, à commencer à faire des conférences au retour de ma première, de la Pacific Crest Trail. Puis il y avait un engouement, puis je me suis découvert une passion pour faire ça, pour aller partager à des passionnés de randonnée. Mais en même temps, ces conférences-là, c'est pas ce qui a financé mes expéditions au complet. Il a fallu que je travaille quand même fort les 6 mois que j'étais ici entre les longues expéditions. Mais moi, ça m'a servi vraiment de thérapie revenir, pour atterrir. Fait que d'aller partager mon vécu, d'aller devant les gens, d'aller inspirer les gens, leur raconter mon histoire, ça me servait vraiment de thérapie pour le retour. De sentir que j'apportais quelque chose, ça m'aidait à m'ancrer, à me sentir moins perdu au retour de ces longues expéditions-là.
Et ça, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est le retour, en fait, là, qui est peut-être une des parties les plus difficiles lorsqu'on termine une grande randonnée, une expédition comme celle-là.
Mais en fait, de la préparation jusqu'au retour, le plus difficile, à mon avis, ça n'a pas été les journées dans les orages, ça n'a pas été tout ce que j'ai pu vivre, parce que tout était, évidemment, on va en reparler, mais tout était temporaire pendant que j'étais les deux pieds dans l'aventure. Le retour est, sans contredit, la portion la plus difficile de l'aventure, même à ce jour.
Alors, pour la Pacific Crest Trail, donc, qui était votre première couronne, oui, pour ainsi dire, le retour, ça s'est fait comment?
Mais je ne savais pas à quoi m'attendre quand je suis revenue de la Pacific Crest Trail. C'est la première fois que je m'extirpais de ma vie pour un long 5 mois, parce que le Sentier national, même s'il m'avait pris un bon 3 mois, j'étais chez moi, j'étais dans un sans-solde professionnellement, j'étais encore accrochée à mon travail, j'avais encore mes ancrages, j'étais près de mes proches, je n'étais pas éloignée. La Pacific Crest Trail m'a projetée à l'autre bout du continent, dans des milieux qui ne m'étaient pas aussi familiers que le Sentier national. Donc, la nature, elle est nouvelle. J'étais vraiment en mode exploration. Fait que le retour, en fait, tout ça, c'est devenu un mode de vie. Après un mois ou deux sur le sentier, cette marche-là, jour après jour, ma routine et tout, c'est devenu pour moi un mode de vie. Et quand ça s'est terminé, la journée que ça s'est terminé, où j'ai atteint la frontière canadienne, j'ai fondu en larmes de toutes sortes d'émotions. Là, j'étais une boule d'émotions tout mêlée. Mais ce qui ressortait le plus, c'est le deuil de cette aventure-là. Plus précisément, le deuil d'une routine. Mais ça, je ne le comprenais pas encore. Quand j'ai eu fini la Pacific Crest Trail, moi, j'étais une victime. Là. J'étais comme, je suis en dépression. Il faut que je fasse le deuil de cette belle aventure-là. Je ne voulais pas que ça se termine. Je ne comprenais pas encore ce que j'étais en train de vivre.
Oui.
Ça m'a pris 2 autres couronnes avant de comprendre les choses.
Et ça s'est produit, j'imagine, au tout dernier moment, là, vous arrivez à la ligne d'arrivée, pour ainsi dire.
Oui,
là,
parce qu'on ne l'envisage pas. On est tellement plongé dans le moment présent, on est dans l'instant, tout le temps, tous les jours, on vit au jour le jour, chaque moment est intense, donc on se projette pas dans le futur, on n'a pas besoin, en fait, même dans la vie, on n'aurait pas besoin de le faire, mais ça se faisait tout naturellement. Donc, quand j'ai mis le pied sur le terminus de la fin, quand j'ai mis le pied sur la frontière canadienne, j'ai eu un choc, là. J'étais comme, OK, c'est vrai.
C'est là.
C'est là que ça se passe. Oui. C'est là que ça... Puis c'est un gros morceau à digérer. Ça a été vraiment... J'arrive à une frontière, mais pour moi, j'arrive à un mur, là, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait au-delà.
Belle image, oui. Donc, c'est la fin, mais c'est aussi le début.
Oui, mais le début de quoi?
De quoi?
C'est le sentiment de... Tu sais, je pense que j'en parlais dans ma dernière visite à l'émission. Je me sentais comme un chevreuil sur une autoroute, là, quand je suis sortie de la Pacific Crest Trail pour revenir chez nous, là, au Québec.
Est-ce qu'il y a un message qui se dégage de cette première grande randonnée, la Pacific Crest Trail? Une émotion en particulier, une thématique peut-être?
Mais en fait, ce qu'elle m'a appris, la Pacific Crest Trail, c'était ma première longue hors de... hors du Québec
hors
aussi.
Hors du Québec aussi, oui.
J'avais randonné un peu aux États-Unis, mais jamais aussi longtemps en terre inconnue, si on veut, là, parce que c'est l'Ouest américain. Moi, j'avais jamais randonné là-bas. Ce que ça m'a appris, c'est vraiment le lâcher prise. Ça, c'est ma grande leçon de cette première aventure.
Et de quelle façon? Comment ça s'est manifesté? On lâche prise comment? Ben, de quoi?
C'est que le Sentier national au Québec, c'était du connu. J'étais un peu en contrôle, même si on était dans un contexte de pandémie, parce que c'était en 2020, mais j'étais quand même en contrôle. Je connaissais mes sentiers, je savais où je m'en allais. La Pacific Crest Trail, elle est si longue qu'on ne peut pas envisager où on va être. Il y a une espèce d'inconnu ou de brouillard devant nous. On découvre la carte au fil de nos pas et pas vraiment avant. Oui. On est à la merci de la météo, on peut pas tout prévoir. Fait que je savais pas où j'allais dormir 2-3 jours. Le lendemain, en fait, le soir même, des fois, je savais pas où j'allais dormir. Puis au début, ça m'angoissait. Puis j'ai appris jour après jour après jour à laisser tomber cette idée-là de « ben c'est pas grave, je vais trouver, ça va bien aller, ça va se placer, le sentier va bien faire les choses. Mm-hmm. » Sans être complètement dans le laisser-aller et dans le...
Je m'en foutis, je presque.
Parce que là, on se mettrait en danger. Là.
Ouais,
il y a quand même une certaine évaluation du risque à faire
ou
un minimum de planification. Mais je devenais de plus en plus confortable avec l'idée de ne pas savoir où ce chemin-là allait me mener. Et à la fin, j'étais en paix avec ça.
Vous avez mis combien de temps à peu près à en arriver à ce stade?
Je dirais toute la première portion du désert. Donc, un bon mois et demi. Là.
Quand même, c'est beaucoup.
Puis même, je pense que ça s'est travaillé. Ça se travaille encore aujourd'hui. Là. C'est pas, on n'est jamais dans le complet laissé-aller. Mais je le travaille encore aujourd'hui. Mais le gros de cette prise de conscience-là, c'est fait probablement après le premier mois, quand c'est devenu un mode de vie.
Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, plus dangereux peut-être?
Sur la Pacific Crest Trail, oui. Dans les montagnes des Sierra Nevada, il y a eu des, épisodes où ben, on était dans la neige, il y avait des risques à gérer. Mais j'ai jamais été vraiment en danger autant que sur celle que j'ai faite cette année. La Continental Divide Trail, la troisième couronne, c'est vraiment là où j'ai eu des moments, trois épisodes, où je me suis dit, OK, là, je veux vivre. Je me suis sentie trop proche de la mort. Mais ça fait partie de l'aventure, là aussi. Ça, c'est un gros apprentissage que j'ai fait, mais ça, c'était la troisième couronne. Ça.
Alors, on met ça de côté pour l'instant. On y reviendra sûrement parce qu'on veut quand même passer à l'Appalachian Trail, qui était votre premier choix, je crois.
Oui, en fait, à l'origine, là, si on recule dans le temps, mon rêve de longue randonnée, quand j'ai commencé à faire de la randonnée sur plusieurs jours, je rêvais de l'Appalachian Trail parce qu'elle est sur la côte est. Mm-hmm. Elle est connue, c'est le sentier de longue randonnée le plus. En fait, ça vient de la Long Trail au Vermont, le sentier qui traverse l'État au complet au Vermont. L'Appalachian Trail s'en inspire et ça s'est créé dans les années 20. Fait que c'est un sentier qui existe depuis longtemps, qui est dans l'imaginaire des gens. Fait que surtout étant de la côte est, le premier sentier qu'on entend parler, c'est l'Appalachian Trail. Fait que c'était mon rêve d'origine. Ça faisait depuis 2016 que je préparais ce grand projet-là. Je m'étais dit, c'est drôle, je me suis dit ça, je me rappelle en 2016, je me suis dit, l'Appalachian Trail, je ferais ça pour mes 40 ans. Bon, elle s'est fait plus rapidement. J'ai eu un beau faux pas en 2020. Je m'étais rendue sur l'Appalachian Trail en 2020. Je n'avais pas encore 40 ans, mais je me suis dit, c'est maintenant, je suis prête, allons-y, 2020, c'est une très bonne idée.
Oui.
J'ai fait 10 jours seulement. Ce projet-là a avorté. Il a fallu que je rentre à la maison pour quelque chose que je ne contrôlais pas. C'était pas une blessure. C'était pas l'envie qui me manquait. Là, j'étais en train de vivre mon rêve. Mais 2020, tous les rêves sont tombés à l'eau. Et mon rêve, est tombé en miettes, en fait. Je suis rentrée à la maison.
La petite pandémie.
Ça que je suis allée faire le Sentier national au Québec.
C'est ça. Et là, vous avez complété l'Appalachian Trail. C'est comment? Décrivez-la parce que c'est quand même un sentier, comme vous dites, un peu mythique, qui a été rapporté par d'autres invités ici, mais j'aimerais votre version.
Oui, bien en fait, après la Pacific Crest Trail, c'était mon prochain projet. Je vais enfin finir par la faire. Et c'est ce que j'ai fait en 2023. Je suis allée affronter la bête. Oui. Finalement, j'ai remis les pieds sur mon rêve d'origine. Mais je l'ai fait à l'envers. Donc, j'ai choisi de commencer dans le nord puis de descendre vers le sud, qui n'est pas la façon classique de la faire, parce que j'avais envie de solitude. J'avais envie Parce qu'il y a énormément de gens hein, qui la font, l'Appalachian Trail, ou du moins qui la tentent à chaque année. Ils vont tous commencer en avril à partir de la Géorgie
Donc,
dans le sud.
Donc, il y a davantage de personnes là-bas, évidemment.
Ah oui. Et j'avais pas envie, moi, d'arriver à un campement avec 60 tentes, d'être stressée. Tu vois, j'avais pas encore fini ce travail de laisser aller là, d'être stressée, d'arriver au camp, d'anticiper qu'il y ait trop de monde, que ce soit plein. Puis bon, fait que ça me rassurait de le faire en direction sud, qui est pas la façon classique. Fait que j'y ai vécu beaucoup de solitude. Puis de faire l'Appalachian Trail suite à la Pacific Crest Trail, qui est très, très, très scénique, où les paysages sont grandioses. L'Appalachian Trail, c'est la côte est, c'est les belles forêts, c'est la mousse, c'est les bonheurs de plus petite envergure. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des paysages grandioses. C'est pas la crête du Pacifique, là. C'est les vieilles Appalaches. C'est des montagnes arrondies par le temps. C'est beaucoup d'histoires. Donc, c'est un sentier de un plus social. Oui. Malheureusement, j'ai pas eu cet aspect-là parce que je l'ai fait à l'envers de tout le monde. Mais c'est un sentier riche en histoire. Surtout quand on passe entre le sud et le nord, là, il y a beaucoup d'histoires au niveau de la guerre civile. Puis c'est un sentier qui date des années 20, donc il a été bâti. Il y a des vieux abris, des bâtiments historiques, des villes historiques le long du sentier. Fait que je pense que c'est plus un voyage dans le temps, l'Appalachian Trail, qu'un voyage dans une nature grandiose à s'en mettre plein les yeux. Il faut s'en mettre plein le cerveau et les narines sur l'Appalachian Trail. C'est les petites odeurs, les fougères, l'humidité de la côte est. Puis il faut être quand même résilient à la météo parce qu'il pleut. C'est un sentier très humide.
Dans votre cas, il y a plu beaucoup.
Beaucoup. 2023, je ne sais pas si on se rappelle, les inondations au Vermont, ça a été une année record en termes de précipitations. Puis j'étais là, j'avais les deux pieds dessus pendant que tout ça pleuvait. Il y a eu des précipitations record. Je n'ai jamais autant ressenti la pluie sur moi. J'ai eu 42 jours d'affilée les pieds mouillés. Sans pouvoir les sécher. Parce
Et comment
qu'on traverse.
On sent? Comment... Ah, je veux retourner, j'en peux plus.
Ben, j'ai eu des... Oui, tu sais, on se décourage, mais c'était tellement absurde. La météo était tellement mauvaise, mais à un niveau qui dépassait complètement l'imaginaire, qu'à chaque jour qu'il pleuvait très fort ou qu'il y avait une averse pendant 12 heures, je me disais, ben, le lendemain ne peut pas être pire. Donc, je persévérais comme ça en me disant, ben, demain, ça va pas pouvoir être pire, ça va être mieux. Oui. Donc, j'ai jamais voulu abandonner lors d'une mauvaise journée. Il y en a eu des mauvaises journées, donc je ne pouvais pas abandonner. C'était ça mon truc.
Est-ce que c'est ça le message ou la thématique ou ce que vous retenez de l'Appalachian Trail, la persévérance?
Oui, je pense que oui, ça a été une épreuve de patience et de persévérance. L'Appalachian Trail, elle m'a montré la résilience, elle m'a prouvé en fait qu'il ne faut jamais abandonner lors d'un mauvais jour parce qu'il y a eu des jours de soleil vers la fin. Et mine de rien, je l'ai fait. J'ai fini, je ne sais pas comment, mais je suis arrivée au bout simplement en me disant « Je n'abandonnerai pas lors d'une mauvaise journée. »
Je suis capable.
Je suis capable.
Je vais terminer.
Voilà.
Oui, oui.
Fait qu'il y avait une obstination mêlée de persévérance là-dedans, mais c'est fait, j'ai atteint le but. Il fallait que je me répète que c'était mon rêve.
Et au retour, comment on se sentait? Un peu comme le Pacific Crest Trail?
Bien, étant donné la météo, celle-là, j'étais plus contente de rentrer à la maison. Donc, ça n'a pas été la même réaction. Quand je suis arrivée au bout, déjà, j'étais accompagnée par mon copain que j'avais rencontré sur la Pacific Crest Trail. Il était avec moi pour la dernière section au sud du sentier en Géorgie. Mm-hmm. Donc, on a fait les derniers jours ensemble. Donc, finir avec quelqu'un, c'est pas le même feeling que finir seul. On est moins dans notre tête. On partage nos pensées. Fait que j'avais l'occasion d'évacuer. J'avais l'expérience aussi de la Pacific Crest Trail. Fait que je savais que le mur s'en venait, mais je l'accueillais parce que j'en étais consciente. Et vu que je l'ai fait une fois, je me suis dit, je vais retraverser le mur une deuxième fois.
Oui.
On apprend.
Et on s'en va au sec.
Et oui, on rentre à la maison et on se met au sec. Ça, j'étais très contente.
Alors, Catherine, prenons une courte pause musicale et on revient avec cette mystérieuse Continental Divide Trail. Catherine, on passe à la Continental Divide Trail. Elle est un peu mystérieuse selon ce que vous nous avez révélé il y a quelques minutes, mais d'abord, vous nous la décrivez.
Oui, c'est la plus méconnue des trois, aussi la plus récente. Elle a été créée, finalisée, ou en tout cas, sa création a vu le jour dans les années 60, puis elle a été complétée quand même assez récemment. Puis même, il reste des bouts qui sont encore sur les routes, qui n'ont pas pu être complétés sous forme de sentier. Donc, c'est la plus récente et la plus méconnue, mais la plus hostile aussi. Elle passe, en fait, ça s'appelle la Continental Divide Trail. Donc, c'est en français la ligne de division des eaux du continent. Donc, c'est sur vraiment la crête de notre continent américain. Donc, ça se passe au plus haut du continent. Hein. C'est en altitude. En fait, c'est la ligne qui suit les Rocheuses. Donc, encore une fois, ce n'est pas plat. Et on va jouer en altitude, ce qui est différent d'avec les deux autres. On l'a eu un peu sur la Pacific Crest Trail. Il y a eu quelques moments en altitude, en haute altitude, dans les Sierra Nevada. Mais là, on est vraiment plongé au cœur de tout ce qui se trouve à être le plus haut du continent nord-américain.
Ce que vous me disiez, intéressant, c'est que les rivières coulent vers l'est d'un côté, l'ouest d'un autre et jusqu'au nord.
Il appelle ça la Triple Divide. C'est dans le Montana, il y a une montagne, en fait, dans Glacier National Park qui se trouve à être une montagne en forme de triangle et tout ce qui coule à l'est, sur le flanc est, se retrouve à couler jusqu'à l'Atlantique, le flanc ouest vers le Pacifique et le flanc nord jusqu'à l'Arctique. Et j'ai mis les pieds sur cette montagne-là. C'était un moment assez spécial, en fait, de marcher sur la naissance de toutes les rivières du continent.
Et comment vous décririez la Continental Divide Trail? C'est plus difficile, moins accessible? C'est comment?
Beaucoup moins accessible. Je suis très reconnaissante que ce soit la troisième. Avoir débuté par celle-là, peut-être je me serais découragée, en fait. C'est là que j'ai mis en pratique, en fait, tout ce que j'avais appris sur les deux autres. Puis celle-là, elle ne pardonne pas. Elle est plus reculée. Le sentier est plus sauvage, plus difficile à suivre. Pas très balisé, très peu balisé à certains endroits. Faut choisir sa propre aventure. Il y a un couloir qui est suggéré, donc la ligne de division en tant que telle, elle n'est pas droite. Hein. C'est une ligne qui va sinuer dans les montagnes, dans les collines, un peu partout. L'eau a fait ce qu'elle veut. Le sentier, si on suivait vraiment la ligne rouge, là, vraiment la ligne de division, le sentier qui était préétabli, ça fait presque 5000 km de long.
Oh là là.
Donc, elle est sur papier, elle est plus longue que les deux autres. Par contre, en étant un peu intelligent, on peut prendre quelques raccourcis. Puis je l'appelle l'aventure. En fait, on choisit sa propre aventure sur la Continental Divide Trail. Il y a 1000 chemins qui suivent la Divide et qui vont pouvoir couper à travers des détours qu'on n'est pas obligé de faire. Donc, on peut choisir de faire ces détours-là. On peut choisir de couper à travers par d'autres chaînes de montagne. Donc, moi, ça m'a donné un total de 3739 km sur les 5000 possibles. Fait que j'étais un peu rusée là, pour essayer d'arriver à mes fins. Parce que le gros défi de ça, c'est qu'il y a le Colorado qui est plus au sud et il y a le Montana plus au nord. Et l'hiver arrive très vite aux deux endroits et fond très tard aux deux endroits.
Ah, oui,
donc,
oui.
Logistiquement, c'est difficile de rapiécer tout ça, là, de la faire d'un bout à l'autre sans avoir à affronter la neige ou carrément l'hiver à certains endroits.
Alors, vous parliez de trois moments forts, peut-être dangereux, là?
Oui, mais trois moments...
Ça nous intrigue, là.
Oui, ces trois moments-là, les trois se sont passés sur la Continental Divide Trail pour trois raisons sur lesquelles j'avais un niveau de contrôle différent. Donc, mon premier épisode, j'aurais été en contrôle si j'avais planifié ma journée autrement. C'est la météo, en fait. Sur la ligne de division du continent, c'est là que la météo est la plus turbulente, en plus de l'altitude. Hein. On sait bien qu'en montagne, la météo peut virer à tout moment. Et c'est le cas, en fait, tout le long de la Divide. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça ne donne rien de regarder la météo. Il va avoir des orages en après-midi tout l'été. C'est un peu ça, le menu.
Vraiment, oui.
À des heures, des fois, improbables. Donc, c'est plus tôt dans l'après-midi. Donc, je m'arrangeais toujours pour être de l'autre côté de la montagne ou avoir passé l'école en après-midi. Par contre, c'est arrivé une journée où il a fallu, je cours carrément contre l'orage qui me rattrapait. J'arrivais en haut d'un col et à 10 heures le matin, ça commençait à tonner autour de moi. Je voyais les éclairs toucher le sol. Je sentais le sol et la roche résonner. Ça me résonnait jusque dans la poitrine. C'était un sentiment terrible. C'était terrifiant. J'ai jamais eu peur de l'orage, mais cette phobie-là est née sur la Continental Divide Trail. Je me sauvais carrément de l'orage qui me pourchassait.
Oui. Autre moment fort?
Mon deuxième moment, c'était encore une fois moyen contrôle cette fois-ci. J'ai pris une crête, en fait, après un sommet de 14 000 pieds. Et le sentier semblait suivre la crête rocheuse. Mais là, il y avait de la grimpe. Et je me suis dit, ça se peut pas que ce soit ça le sentier. Je vais passer à côté. Fait que mm-hmm. Je me pensais plus rusé que la carte. Et j'ai suivi une traîle de chèvres, un sentier de chèvres, en fait, qui passait dans les éboulis, en fait, sur le côté, sur le flanc de la montagne. Je me suis dit, je vais longer par le flanc, ça va aller mieux. Et le flanc devenait de plus en plus à pic. Plus j'avançais, plus le flanc de la montagne s'effritait. Et là, je me retrouvais devant l'abysse. Là. Ça commençait à être une pente dangereuse avec des roches instables. Et je me suis vite rendu compte, non, c'était pas le sentier. Là, j'ai pas le vertige. Encore une fois, c'est une peur que je n'avais pas avant de vivre ce moment, avant qu'une roche cède sous mon pied. Et j'ai vu la roche débouler 2000 pieds plus bas.
Et le son, j'imagine.
Et le son qui résonne, résonne. Et tu te dis, ça pourrait être moi. Ça pourrait être mon corps qui culbute comme ça, comme une poupée de chiffon jusqu'en bas de la montagne. Donc, je me suis ressaisie, j'ai pleuré. Et je me suis dit, je veux vivre. Et j'ai grimpé à la verticale, j'ai carrément coupé à travers. Je dis, je ne peux pas continuer comme ça sur cette traversée-là. Je vais grimper là où la roche est solide. Et je me suis agrippé sur la crête, qui était en fait le sentier. Et j'ai continué mon chemin comme ça, en escaladant un peu les rochers. Mais au moins, rochers-là ne bougeaient pas.
Ouf, donc, une petite frousse.
Une petite frousse.
Oh, oui, une grosse frousse.
Oui, la grosse frousse, c'est l'animal, en fait. Ça s'est passé en territoire grizzly.
Oh, c'est le troisième.
Ma troisième frousse. Là, de la Continental Divide Trail, c'est passé au Wyoming, en fait, à la sortie de Yellowstone. Le parc de Yellowstone est connu pour sa population de grizzlies. Et dans ces zones-là, il faut traîner un sac de nourriture résistant à ces bêtes-là, qui sont quand même assez fortes. Donc, j'avais un sac qui résistait bien. J'ai fait quelques petites erreurs en chemin. Donc, j'étais seule. Premièrement, on ne randonne pas seule en territoire grizzly, mais mon partenaire et moi, on devait se séparer parce que moi, j'allais prendre un chemin différent du sien puisque j'allais chercher mes souliers en ville. Donc, il fallait que je prenne un sentier. Donc, on s'est séparés. Je me suis retrouvée à marcher seule. Première erreur. Deuxième erreur, je suis descendue camper le long d'une rivière parce qu'il n'y avait plus de point d'eau là où j'avais planifié camper. Donc, il a fallu que je descende dans la vallée. Oui. Et c'est dans la vallée qu'il y a le plus d'activités grizzly, donc près des rivières à éviter. J'ai campé près de la rivière. Et troisième erreur, j'ai mangé dans ma tente. Oui, je me confesse, j'ai fait une erreur fatale en territoire grizzly.
Presque
on ne
fatale.
Mange pas, presque. Oui, je suis encore là, je suis ici, je suis vivante, tout s'est bien passé.
Oui.
Mais j'ai mangé dans ma tente et une fois que j'ai terminé mon repas, parce qu'il y avait trop de moustiques. J'ai été paresseuse et faible. Il y avait beaucoup trop de moustiques. J'ai mangé malheureusement là où il ne fallait pas. Donc, j'ai été quand même accrocher ma nourriture plus loin. Donc, vraiment dans le bois, j'ai été accrocher mon sac après un tronc assez solide. Je suis revenue me coucher. Et à 1h du matin, j'entendais quelque chose, commencer à jouer avec mon sac de nourriture. Et je savais très bien d'où le son provenait. Au début, c'était juste ça se chamaillait un peu. Je me suis dit, c'est peut-être un raton laveur. Mais là, j'entendais des branches de plus en plus grosses céder. Cric, crac. J'étais comme, c'est un gros raton laveur. Et ce n'est pas, assurément pas un raton laveur. J'étais dans ma tente, pétrifiée, allongée, seule. Et j'avais mon vaporisateur de poivre. On est obligé, en fait, de traîner en territoire grizzly une bonbonne de poivre. Pour se défendre des ours, si attaque il y a. Mais j'entendais l'ours se battre et après quelques minutes, le son s'est arrêté. Il a arrêté de se battre. Il a abandonné parce que le sac a bien fait son travail.
Oui.
Il n'a pas réussi à atteindre ma nourriture, mais là, il est où? Le silence était la chose la plus terrifiante à ce moment-là. Déjà, je ne sais pas si c'est un ours noir ou un grizzly et je ne vais pas aller lui demander.
Non.
Donc, je suis restée pétrifiée, allongée dans ma tente de 1h du matin à 4h30, le temps que le soleil se lève. Puis dès que le soleil s'est levé, j'ai remballé mes choses et je suis allée en ville cette journée-là.
Vous avez trouvé votre sac?
Mon sac était semi-intact, donc il n'y avait pas de marque ou de grosses cicatrices. Par contre, le nœud que j'avais fait pour l'accrocher après l'arbre était serré. Ça m'a pris un bon 15 minutes pour réussir à le défaire.
Ouf! Nous sommes heureux que vous soyez là aujourd'hui.
Oui.
Et moi aussi. Alors, dites-moi, comme pour les deux autres couronnes, y a-t-il une thématique, un message qui ressort de tout ça?
En fait, je suis beaucoup plus forte que je le pense. Ce sentier-là m'a mis à l'épreuve. C'est là où, en fait, j'ai mis en pratique tous mes acquis. Et j'ai cette grande fierté-là d'avoir, bon, fait quelques erreurs, mais somme toute, j'ai pris les bonnes décisions. J'ai été satisfaite de ma gestion du risque. Et je réalise que je suis capable de tout. Donc, ce sentier-là a consolidé tout ce que j'avais appris le long des autres sentiers.
Mm-hmm. Est-ce que, au regard des trois couronnes, il y a un grand message, une espèce de constatation globale de vos trois expériences?
Ben, en fait, oui, on parlait un peu du laisser-aller, du lâcher-prise, ça s'est installé, mais aussi d'apprivoiser le présent. T'sais, le laisser-aller, c'est un peu de ne pas trop penser au futur, mais donc, ça ramène au présent. Donc, j'ai vécu ces trois sentiers-là. Chaque jour a été une aventure différente, mais chaque jour s'est vécu au moment présent. Puis ce qui me manquait, quand j'ai eu le deuil que j'ai fait de la Pacific Crest Trail, que je ne comprenais pas trop ce que c'était, je comprends un peu plus ce qui me manque maintenant. Je comprends pourquoi ce deuil était si fort. C'est que pendant ces journées-là d'aventure, même si c'est de l'inconnu, c'est de l'aventure, c'est de la découverte à tous les jours, je sortais de ma zone de confort tous les jours, il y avait quelque chose qui se répétait. J'avais établi une routine dans laquelle j'étais heureuse. Chaque jour, je pliais mes affaires, je faisais mon sac et tout ça, c'était rassurant de monter mon campement tous les soirs, de me donner cette discipline-là. J'allais chercher un certain bonheur là-dedans, puis c'est ce que j'ai compris. Ça a pris une couple de kilomètres avant que je me rende compte. J'ai compris que ce qui me manquait le plus de ces grandes aventures-là, c'est pas de vivre l'aventure à tous les jours, là. Mais oui, la nature me manque, mais ce qui revenait, le schéma qui revenait, c'est que c'est cette routine-là qui me manquait.
Est-ce qu'on peut dire que c'est plus qu'un bonheur, c'est un bien-être?
Un complet bien-être, oui. C'est un état de paix et une liberté. Même si c'est une routine, je la vivais en liberté parce que j'avais fait le choix complet de cette simplicité-là puis de cette routine-là. Mm-hmm. Fait que j'étais je flottais dans un bien-être super simple, en fait. Oui. Puis c'est ce que j'ai du mal à retrouver quand je reviens chez moi ou quand je reviens à ma vie, où est-ce que mes anciens patterns refont surface.
On en parlera dans quelques secondes, mais là, il faut que je vous pose la question. Votre trail, votre sentier préféré, c'est... Lequel?
Bien, la Pacific Crest Trail, puisqu'elle était ma première, et parce que, mon Dieu, les paysages sont tous les jours. Des fois, je retourne dans mes photos, puis je n'y crois pas à quel point c'était beau, c'était merveilleux. La Pacific Crest Trail est quand même ma favorite des trois. Ouais.
Alors, vous êtes de retour. Encore une fois, félicitations, parce que là, après avoir écouté votre récit, waouh, quel accomplissement. Comment on sent? On fait quoi?
Ah, ben on est encore un peu perdu. Hein? Je sais que ça s'en vient, je l'ai envisagé. Fait que pour moi, ce mur-là s'est transformé en colline verte. Là. Je l'ai apprivoisé, je peux la grimper, je peux passer par-dessus. Je l'accepte. On fait quoi? Je voudrais bien rebondir sur un autre projet de longue randonnée, mais l'atteinte de ces trois-là, on dirait que j'ai bouclé une boucle. Je n'ai plus l'appel de faire d'aussi longues marches. Là, je suis plus dans la recherche d'équilibre, en fait. C'est ça qu'on fait. On travaille sur chercher ma routine, en fait, d'aller chercher une routine, d'aller chercher une discipline qui va me rapprocher de ce bien-être-là que j'avais trouvé sur ces grands sentiers-là.
Yannick Proulx, que vous connaissez.
Oui.
Qui a un de vos bons amis.
Ben oui, c'est mon ami.
C'est ça, oui. Qui a traversé le Canada. Il nous disait, au micro, de marcher vers le bien-être, que c'est la routine qui lui manquait. Ben, qu'il pensait que c'était la routine qui lui manquait, mais il nous disait aussi qu'il avait une routine tout au long de sa traversée. Il l'a compris, comme vous, d'ailleurs. Et puis, ce qui lui manquait le plus au retour, c'est justement la routine.
Oui.
C'est drôle, quand même.
Oui.
Il me semble qu'on s'éloigne, on part en vacances, on part en randonnée pour oublier la routine, le quotidien d'ici. Mais la routine, c'est quand même important.
La routine, c'est important. Pourquoi on part pour oublier ce qu'on pense être la routine, c'est qu'il y a des éléments probablement dans cette routine-là qui ne nous convient plus ou qui ne nous convient pas. Donc, si on part dans une fuite, c'est davantage parce qu'on aurait des choses à ajuster, des choses à changer de cette routine-là sans éliminer la routine. Je ne crois pas qu'éliminer la routine, c'est la solution.
Parce que la routine nous procure un ancrage.
Exact. C'est nos repères. C'est ça qui va faire en sorte. C'est lié un peu à la discipline, mais c'est notre fort dans le brouillard.
Alors, vous avez appris à vivre le moment présent.
Complètement.
Beaucoup. Hein?
Complètement.
Oui.
Oui. Ne penser qu'à mes besoins primaires au moment où ça se présente. On n'anticipe pas tant que ça. Quand on est en nature comme ça, on vit pas à pas. On se laisse porter par le paysage, par le sentier, puis on est vraiment dans les sensations du moment présent. Puis ça, c'est difficile de l'avoir en dehors des sentiers parce qu'on est bombardé par des stimuli de partout.
Oui.
Fait que c'est difficile de trouver de se recentrer comme ça.
Et vous voulez communiquer ce message de par vos conférences, entre
autres. Oui, je veux partager ce que j'ai durement acquis, en fait, parce que ça a été long avant que je comprenne ces petites choses-là.
Oui.
Toutes les leçons que j'ai apprises, le bonheur que j'ai trouvé dans cette simplicité de vie-là, puis pourquoi j'ai choisi de minimaliser ma vie suite à ces randonnées-là, puis pourquoi ça me procure finalement ce bonheur-là que j'ai trouvé aujourd'hui. Là.
Alors, dans vos conférences, vous parlez de 8 clés.
Mm-hmm.
8 messages clés. J'ai tenté d'en soutirer quelques-uns à notre pré-entrevue. J'ai eu un certain succès. Alors, vous pourriez peut-être nous partager un ou deux de ces secrets.
Oui, en fait, c'est mes 8 leçons qui m'ont permis, en fait, d'atteindre mon but, d'atteindre la fin et de persévérer le long de ces sentiers-là. Mais c'est 8 clés aussi qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Là.
C'est ce qui est important.
C'est ce qui est important. Puis je me suis rendu compte que ces leçons-là, ça s'applique à n'importe quel projet de n'importe quelle envergure. Puis j'ai envie de les partager parce que, un, ça peut servir à avoir un succès de randonnée dans sa propre randonnée. Puis entre autres, il y en a une de ces clés-là, je pense, la plus importante, c'est s'écouter. Il y a une phrase en anglais qui dit « hike your own hike », donc « randonne ta propre randonnée ».
Oui.
Et c'est pour ça que je partais un peu seul, puis j'avais envie de vivre ces aventures-là en solo pour être à l'écoute de ce que mon corps me dit, de ce que l'environnement me dit, sans le brouhaha des attentes des autres ou de quelqu'un qu'il faut que je suive. Donc, de marcher à son propre rythme, je pense que c'est le plus important. Ça s'applique dans n'importe quel projet. Si on avance dans un projet plus vite que ce qu'on est capable de fournir, bien, on va se brûler.
On dit souvent « écoute ton corps », mais « écoute ton esprit » aussi.
Les deux, ça va ensemble.
Oui.
Écouter son intuition, écouter les petits bobos, écouter les bruits de la nature autour de soi, parce que ça peut être un indice que l'orage s'en vient. On va faire un parallèle. Mais
oui,
c'est écouter. C'est une des 8 clés.
Ce qui se dégage de vos randonnées, c'est aussi que, vous l'avez mentionné, tout est toujours temporaire.
Oh oui, parce que si ça ne l'était pas, j'aurais abandonné 1000 fois.
Et pourquoi? Comment?
Ben, en fait, dans les mauvaises journées, si on vient à l'Appalachian Trail, si je me répétais, en fait, que le mauvais temps qui me tombait dessus, la pluie, elle va s'arrêter, puis il va faire beau. Après la pluie, vient le beau temps. Donc, tout est temporaire. Si je vis un mauvais moment, ça va passer. Il va y avoir des bons moments après. Donc, c'est le sentier qui m'a enseigné ça. Il a fallu que...
Ça vous motivait, hein?
Ben oui, ça me motivait de me rappeler que si je passais un mauvais moment, ça allait passer.
Et ce qui est important dans vos randonnées, mais dans tout projet, dans toute vie, tout est possible si tu veux, si tu as la passion.
La passion et la volonté
de le faire.
En fait, la passion va nourrir ta volonté. Puis c'est ce qui va te propulser. Si on n'a pas la passion, si ça ne vient pas de l'intérieur, si ça ne vient pas du cœur, déjà, le projet part de reculons. Là. Mais si ça vient du cœur, si c'est quelque chose qui nous passionne et qu'on veut vraiment faire, les choses vont s'aligner. Il faut juste faire le premier pas. Mais oui, tout est possible.
Et là, il y a un livre aussi qui... va paraître bientôt, que vous avez
bientôt,
déjà...
bientôt, ça peut être long à accoucher, un livre, mais c'est...
Et ça sert vos expériences, justement.
Oui, ce que j'ai envie de partager, les évolutions que j'ai faites à travers ces trois grandes randonnées-là, puis aussi toutes les anecdotes, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées, les rencontres que j'y ai faites, les enseignements que ça m'a donné, tout ça, j'ai envie de le coucher sur papier puis de le transmettre.
Vous avez beaucoup.
J'ai beaucoup, faut que je...
À dire, à écrire.
Faut que je m'y mette.
Oui, tout de suite. Nous avons bien... Oh, d'ici quoi? 6 mois, 1 an?
Je ne me suis pas donné de délai.
C'est bien, peut-être.
J'aimerais bien dans l'année, je prends mon temps et je m'écoute. Donc,
on verra. Oui. Tout ça m'amène, en conclusion de notre entrevue, à parler de votre style de vie. Vous vivez un style de vie vraiment nomade?
Oui, nomade des temps modernes.
Oui. Et comment ça se passe au quotidien?
C'est sûr que ça vient avec beaucoup d'incertitudes. Le nomadisme sur les grands sentiers est très facile parce que la routine, elle est là. C'est une routine qui bouge de nuit en nuit. Je ne campe pas à la même place. Donc, le nomadisme en sentier fait partie de la routine. Ici, c'est plus compliqué un peu de ne pas avoir d'adresse. Ça vient avec des sacrifices. Oui. Ça vient avec beaucoup de questions de mon entourage, beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est comme ça que je me sens le plus libre de me déposséder de tous mes biens matériels. Puis d'aller là où le vent me porte. Je fais du gardiennage de maison, du gardiennage d'animaux qui me porte à aller d'une maison à l'autre. Puis ça, j'aime beaucoup essayer des nouveaux lieux. Ce besoin-là de bouger, d'explorer des nouveaux lieux, ça s'inscrit dans mon quotidien maintenant.
Leonardo da Vinci le décrivait comme le sfumato, l'incertitude. Je trouve ça merveilleux.
Le sfumato, oui, je vis un peu là-dedans.
Oui.
Ouais, mais j'apprends à naviguer, j'apprends à l'apprivoiser avec les dernières années. Donc, parce qu'on la société au complet est dans un sfumato, si on compte ça comme ça. Puis d'être capable de naviguer dans l'incertitude, je pense que c'est une grande force qu'on devrait tous développer.
Je crois que oui, je crois. Mais il y a quelque chose qui me chicote. Vous n'avez pas le goût d'un pied-à-terre en quelque part? Parce que vous me disiez que toutes vos possessions, vous pouvez les placer dans une voiture et vous êtes parti.
Oui.
C'est prêt à partir n'importe où, n'importe quand.
Oui, toujours prêt à partir.
Oui, donc pas de pied à terre.
Pas de pied à terre. Bien, mon ancrage, évidemment, j'ai ma famille, mes parents, mes sœurs, mon copain, mais lui aussi, là, il bouge beaucoup. Mais j'ai mon ancrage, mes parents vont tout... Puis je suis hyper... reconnaissante d'avoir ce lieu pour me réfugier si jamais j'ai besoin. J'ai un entourage en or. Sans cet entourage-là, ce serait mille fois plus difficile. Je serais ce qu'on appelle un sans-abri.
C'est comme l'Appalachian Trail, vous le faites à l'envers des autres.
Je le fais à l'envers des autres, à contre-courant.
En terminant, Catherine, il y a une autre grande randonnée bientôt?
Pas bientôt, j'y songe, j'ai des idées.
Les images qui se projettent dans votre esprit, c'est quoi?
J'ai l'envie d'aller explorer un peu l'Europe, entre autres les Pyrénées. Cette chaîne de montagnes-là m'appelle. Mais aussi de continuer à explorer mon Québec. Je veux continuer à redonner au Sentier national, je suis beaucoup impliquée.
Oui.
Mais récemment, même dans les derniers jours, j'ai eu ces réflexions-là. Je veux aller dans le nord du Québec. Il y a quelque chose... Oui, j'ai exploré le Sentier national, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Fait que peut-être une petite expédition qui se dessine à l'horizon.
Ah, merveilleux. Chez vous.
Chez nous.
Alors, Catherine, merci tellement d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour nous parler de vos trois couronnes. Et bonne chance pour le reste de votre vie nomade.
Merci beaucoup, Denis. Ce fut un réel plaisir.
C'est de nouveau l'heure de la chronique Le Corps en marche en compagnie de Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur spécialiste. Bonjour Michel.
Bonjour Denis. Aujourd'hui, je vous propose un thème qui colle parfaitement à la saison, l'automne, les rhumes, les grippes, et comment marcher peut renforcer votre immunité.
Alors, on dit adieu au sirop, au pastis et au mouchoir, peut-être?
Peut-être pas, Denis. La marche, c'est quand même pas un remède miracle, mais plusieurs études démontrent que pratiquer régulièrement, surtout à intensité modérée, la marche aide à renforcer notre système immunitaire. Bref, la marche nous rend plus résistants face aux virus et aux infections saisonnières.
Comment ça fonctionne, tout ça?
Eh bien, la marche stimule plusieurs mécanismes. Donc d'abord, elle va augmenter la circulation sanguine, ce qui va permettre aux cellules immunitaires de mieux circuler dans le corps. Ensuite, elle active particulièrement les cellules NK, donc les Natural Killers, qui sont en fait nos cellules de défense rapide là, contre les virus.
Oui.
Et enfin, la marche aide à réduire le stress chronique. Donc, on sait que le stress augmente le cortisol et l'augmentation de cortisol, ça affaiblit le système immunitaire. En marchant, on abaisse le cortisol et donc nos défenses naturelles remontent.
Très intéressant. Et comme toujours, vous avez des données précises à nous présenter.
Bien sûr. J'ai retenu une étude de l'Université de la Caroline du Nord qui a montré que les adultes qui marchaient 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, avec 45 % moins de rhume que les personnes sédentaires. J'ai lu une autre étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine qui a suivi plus de 1000 personnes. Et les résultats qui sont sortis de cette étude, c'est que les personnes qui faisaient une activité modérée, comme la marche, attrapaient moins d'infections respiratoires. Et, intéressant, quand elles tombaient malades, leurs symptômes duraient moins longtemps.
Très intéressant ça, Michel. Donc, marcher, c'est un peu comme un renforcement de notre bouclier naturel contre les microbes.
Exactement.
Et je m'avancerai pour dire que la marche en pleine nature est d'autant plus bénéfique, surtout en cette belle saison d'automne avec son air frais, ses belles couleurs et ses longues promenades à la campagne.
Oui, oui, et c'est là que ça devient intéressant. Au Japon, il existe une pratique appelée Shinrin-yoku. Là, vous excuserez mon japonais, là. Mais ça se traduit par « bain de forêt ». Donc, les chercheurs ont démontré que de se promener en forêt, ça diminue le taux de cortisol, abaisse la tension artérielle et augmente l'activité des cellules NK. Donc, les cellules NK, là, Natural Killer, ce sont des cellules tueuses naturelles, si on veut. Donc, des globules blancs qui constituent une partie essentielle du système immunitaire inné. Leur rôle principal, c'est de détecter et de détruire les cellules du corps qui sont anormales, comme les cellules infectées par un virus ou les cellules cancéreuses, par exemple. Donc, lorsque l'on marche en forêt, non seulement on respire mieux, mais on renforce aussi directement notre immunité.
Wow, fascinant ça! Donc, marcher dans les bois à l'automne, ça fait autant de bien à la tête qu'au corps.
Exactement. C'est une médecine douce, gratuite et à la portée de tous.
Alors, Michel, vous avez souvent des images pour nous aider à bien saisir certains processus parfois complexes. Par exemple, le système immunitaire.
Oui, oui. On pourrait dire qu'un marcher, c'est un peu comme envoyer une patrouille de petits soldats à travers le corps. Donc, les petits soldats vont mieux circuler, ils vont être plus nombreux, plus vigilants. Le résultat, c'est que quand un virus va tenter d'entrer, bien, ils sont déjà en place pour réagir.
Alors, il ne manque plus que vos conseils pratiques pour renforcer notre système immunitaire grâce à la marche.
Oui, j'ai des petites pistes simples pour vous. Alors, tout d'abord, marchez régulièrement. Idéalement, 30 minutes par jour, mais dites-vous que même une petite marche de 10 minutes, c'est déjà bénéfique. Privilégiez marcher à l'extérieur. Le contact avec la nature, ça amplifie les bénéfices. Adopter une intensité de marche modérée. Donc, marcher d'un bon pas où on arrive à parler, mais pas à chanter quand même. Et si vous voulez ajouter une dimension sensorielle à vos marches, bien, en automne, profitez des odeurs, les couleurs, le son des feuilles. Ça stimule aussi le mental et ça réduit le stress.
J'ai hâte de partir déjà. Et vous avez, comme toujours, Michel, un exemple concret à nous offrir.
Oui, oui. Donc, dans le cadre de cette même expérience japonaise mentionnée plus tôt, des participants ont fait une marche en forêt de 2 heures. Le résultat, l'activité de leurs cellules NK, donc les cellules tueuses naturelles dont je parlais tout à l'heure, est restée élevée pendant plus d'une semaine après la marche.
Wow.
Donc, ça montre que même une seule sortie aurait des effets durables.
Alors, la prochaine fois que vous hésitez à sortir marcher parce qu'il fait trop froid ou frais beaucoup ou qu'il brouille un peu, dites-vous que vous renforcez votre défense naturelle.
Exactement. Donc, marcher à l'automne, c'est comme offrir à votre système immunitaire une séance de renforcement. C'est simple, accessible et tellement bénéfique. Alors, n'attendez pas d'être enrhumé pour mettre vos chaussures et sortir. Votre système immunitaire sera ravi et votre corps vous en remerciera.
Merci beaucoup, Michel, pour ces précieux conseils et à bientôt.
À bientôt, Denis.
J'allais dire sayonara.
Oh, sayonara.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation à l'émission Catherine Turgis et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à notre fidèle collaborateur Lysandre Duplay à la technique. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée attribuée à Bernard Olivier. La marche ramène le regard à une juste dimension. Elle apprend à gouverner le temps. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.